1% des plus riches qui contribuent à 10% des gaz à effet de serre et les 10% les plus riches à 50%.
Vouloir sauver la sécu, c'est une catastrophe. Il ne faut pas la sauver, il faut la développer.
Aujourd'hui en Belgique, un enfant sur cinq est en surpoids.
C'est un débat sensible, comme l'est souvent une question d'actualité, par exemple la sécurité sociale. La sécu, c'est couvrir collectivement un risque comme un service de base universel. Ce système a été mis en application à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. La sécu a ainsi soutenu une grande production industrielle qui, aujourd'hui, est à l'origine des injustices sociales, au même titre que les dérèglements climatiques. L'accélération des dérèglements climatiques engendrera une vulnérabilité des populations à risque, principalement celles qui sont précarisées ou de toute façon âgées. Bref, on ne vivra plus aussi longtemps et en bonne santé. Voilà pourquoi une vision prospective est essentielle. C'est donc une conférence avec de bien belles propositions. Sur le plateau, il y a Pascale Vielle, spécialiste des questions de sécurité sociale. Elle enseigne à l'UC Louvain. Aurore Françollet, spécialiste des questions de justice environnementale et d'écologie sociale. Elle est chercheuse à l'ULB et à Sciences Po Paris. Felipe Van Kersblik, secrétaire général de la CNE, la Centrale Nationale des Employés. C'est la coprésidente d'Écolo, Marie Lecoq, qui anime cette conférence. Vous êtes le dimanche 31 août 2025 sous le grand chapiteau dressé à ma cendre.
Je vais, je pense sans plus attendre, passer la parole à Pascale et Aurore pour nous présenter l'étude qu'elles ont réalisée avec d'autres chercheurs et chercheuses sur, tiens, comment pourrait-on mettre en place une sécurité sociale et écologique aujourd'hui en Belgique. Je vais les laisser présenter l'étude et puis on aura l'occasion alors de venir creuser certains points et de faire réagir Felipe pour pouvoir aussi amener des questionnements, des débats, des éléments plus précis dans la recherche.
Merci beaucoup Marie, merci beaucoup de nous accueillir aussi ici à Massambre dans ce beau domaine et pour cette occasion. On est très contente de pouvoir partager les résultats de notre recherche avec vous et de pouvoir discuter avec Felipe. C'est un projet qui est un projet interdisciplinaire et interuniversitaire. Il a fédéré des chercheurs et des chercheuses de l'UC Louvain, de l'ULB et de Sciences Po Paris. Il est aussi interdisciplinaire. On était des économistes, des politologues et des juristes, avec pour certains un background sécu et pour d'autres un background plus environnemental. Donc c'était vraiment une recherche très intégrée et je crois que c'est un de ses intérêts et une de ses originalités. Les trois principaux apports de notre projet, c'est d'abord on a proposé ce qu'on a appelé une matrice du risque social écologique, un outil original qui va permettre de caractériser les risques socio-écologiques qui ne sont pas ni les risques sociaux ni les risques écologiques et de soutenir l'élaboration de politiques de protection sociale écologique, des perspectives de transformation de la sécurité sociale et la définition de principes directeurs de gouvernance et d'instruments concrets pour y arriver. Voilà. Et tout ça va déboucher à 7 recommandations clés pour institutionnaliser la protection sociale écologique en Belgique.
Alors notre recherche, elle part du constat en fait que nos systèmes économiques qui ne prennent pas en compte les limites écologiques, aujourd'hui ils déstabilisent fondamentalement la biosphère et que par ce biais ils génèrent de nouveaux risques qui, lorsqu'ils se matérialisent, sont susceptibles d'affecter le bien-être des populations humaines. Et donc ces nouveaux risques, qu'on appelle des risques socio-écologiques, ils posent en fait deux grands défis pour nos systèmes de protection sociale. Donc le premier défi, c'est de concevoir des mécanismes de protection collective face à ces risques afin de protéger la population. Donc on part de l'idée que ces risques, ils sont différents des risques classiques couverts par la sécurité sociale d'aujourd'hui, mais que dans ces risques, il y a en fait une responsabilité et une vulnérabilité collective. Certes différenciée, c'est bien ça toute l'injustice climatique, mais finalement tout le monde contribue à ces risques et tout le monde peut être affecté par ces risques. Et donc ce qui justifie de développer des mécanismes de solidarité, de mutualiser ces risques afin de protéger tout le monde. Et donc à construire ce qu'on appelle une protection sociale écologique. Donc ça, c'est le premier grand défi, donc penser cette protection sociale du futur. Le second défi, c'est d'imaginer des systèmes de protection sociale qui sont émancipés de la croissance économique. Parce qu'il est extrêmement essentiel, bien sûr, de s'attaquer aux conséquences de ces risques, donc à protéger la population, mais il faut aussi s'attaquer aux causes structurelles de ces risques, c'est-à-dire un système qui est fondé sur la croissance économique, qui est dangereux pour la planète et donc pour les sociétés qui en dépendent. Et donc le défi aujourd'hui, c'est de changer le modèle, un modèle qui s'est assis sur la croissance économique, pour imaginer une protection sociale et écologique qui fonctionne dans un monde post-croissant, donc dans ce qu'on appelle une économie du bien-être, c'est-à-dire une économie qui fonctionne dans les limites planétaires et qui permet d'assurer les besoins de tous. Donc ça, c'est vraiment les deux grands défis auxquels font face la sécurité sociale d'aujourd'hui. Et dans ce rapport, on s'est plutôt focalisé sur le premier, parce que c'était en fait une commande, ce rapport, donc on a répondu à un appel d'offres. Mais c'est important de garder à l'esprit ce contexte plus large dans lequel s'inscrit notre réflexion. Alors dans notre travail, on distingue deux grands types de risques socio-écologiques qui sont liés à deux grands changements fondamentaux en cours. Donc on a d'une part ce qu'on a appelé les risques de transformation biophysique, qui sont en fait les risques liés directement à la déstabilisation de la biosphère, donc typiquement tous les effets sociaux liés aux vagues de chaleur, aux inondations, aux pandémies, donc c'est vraiment tous ces risques liés aux changements environnementaux et climatiques contemporains. Le second type de risque, ce sont les risques qui sont liés aux réponses apportées au premier type de risque. Donc vraiment les risques liés à toutes les politiques qui sont mises en place pour atténuer et s'adapter aux risques environnementaux. Donc typiquement, on a les risques liés directement aux effets des politiques environnementales, comme les zones basse émission, les primes à la rénovation, qui, si elles sont mal pensées, peuvent générer des effets sociaux. Et on a également tous les risques plutôt liés aux effets indirects de ces politiques. Donc typiquement, les transformations de l'économie liées aux politiques, donc comme les reconfigurations du marché du travail qui peuvent conduire à la destruction de certains emplois, notamment dans les énergies fossiles. Donc ça, c'est notre point de départ. Donc c'est deux types de risques et on va essayer de réfléchir à finalement comment repenser la protection sociale pour protéger face à ceci. Alors dans notre travail, on part d'une conceptualisation multidimensionnelle du risque qui se base initialement sur les cadres proposés par le GIEC, donc le groupe d'experts intergouvernemental du climat, qui distingue trois principales déterminants du risque. Donc on a tout d'abord l'aléa, qui est en fait un événement incertain qui, lorsqu'il se matérialise, peut générer des pertes et des dommages. Donc typiquement, ça peut être une inondation. La seconde dimension, c'est l'exposition, donc c'est la présence dans des lieux ou des situations qui sont susceptibles d'être affectées par ce risque. Donc typiquement, si on a des habitations en zone inondable, on peut dire qu'elles sont exposées. Pareil, si on a des infrastructures en zone inondable, il y a une exposition. Et la troisième dimension, qui est vraiment celle sur laquelle on a le plus travaillé, c'est la vulnérabilité, qui est en fait la propension à être affectée négativement par le risque lorsqu'il se matérialise. Alors l'originalité de notre travail, c'est qu'on distingue deux types de vulnérabilité. Donc on a d'une part la vulnérabilité sociale, qui est la plus connue, qui est en fait la vulnérabilité des individus et des groupes sociaux, et qui est en fait liée à trois principaux facteurs. Donc on a l'exposition renforcée, avec cette idée que, par exemple, que dans une zone inondable, certains sont plus exposés que d'autres. Par exemple, notamment les personnes qui vivent au rez-de-chaussée ou au premier étage sont plus exposées que les autres. On a également la sensibilité, qui est cette fois plutôt liée à des caractéristiques individuelles. Donc toujours avec l'exemple des inondations, on sait que les personnes âgées ou les personnes en situation d'handicap sont beaucoup plus sensibles que le reste de la population. Et ça, on l'a notamment vu dans les tragiques inondations de la Vesdre, où parmi les 38 victimes, c'était principalement des personnes âgées qui étaient vraiment restées bloquées chez elles. Donc ça, c'est l'aspect sensibilité. Et la troisième caractéristique, c'est la capacité d'adaptation. Donc c'est la capacité à se préparer, à répondre aux risques lorsqu'ils se matérialisent. Et donc là, typiquement, toujours avec l'exemple des inondations, on pense par exemple aux liens sociaux, le fait d'avoir une communauté qui peut nous aider lorsque le risque se matérialise. C'est ça, vraiment, ces trois dimensions qui forment la vulnérabilité sociale. Et puis à côté de ça, et ça c'est vraiment l'originalité du travail, on a ce qu'on a appelé la vulnérabilité institutionnelle, qui représente en fait la vulnérabilité des institutions qui facilitent les efforts des individus dans leur préparation et leur réponse face aux risques, et de façon plus générale, la vulnérabilité des institutions qui façonnent la coopération sociale. Donc si on reprend l'exemple des inondations, on peut penser par exemple aux risques liés à la capacité d'accueil des hôpitaux. Donc ça typiquement c'est un exemple de vulnérabilité institutionnelle, mais aussi de façon plus plus général, les risques qui pèsent sur les systèmes démocratiques et les finances publiques. Donc ça, c'est un aspect assez innovant, dont on ne parle pas assez aujourd'hui, qui est encore assez peu traité dans la littérature et qui est en fait ressorti de l'atelier qu'on organisait avec des institutions, des organismes de sécurité sociale et d'autres acteurs de la sécurité sociale en Belgique qui ont vraiment montré la vulnérabilité de nos institutions face aux risques, ce qui nous a amené à intégrer cette dimension. Donc ça, c'est vraiment notre point de départ. Et donc, sur cette base, on a développé ce qu'on a appelé la matrice du risque social et écologique, qui est en fait un outil d'aide à la décision qui vise à caractériser les risques sociaux et écologiques à travers leurs différents déterminants pour, sur cette base, imaginer et concevoir des politiques de protection sociale et écologique. Et donc ici, dans le rapport, on a illustré l'utilisation de la matrice en l'appliquant à différents types de risques. Et je vais vous en présenter un, qui est le risque de vagues de chaleur. Donc il y a un risque extrêmement important pour la Belgique qui est de plus en plus exposée aux vagues de chaleur car on sait que depuis les dernières décennies, leur fréquence, leur longueur et leur intensité a augmenté et à l'avenir, ça ne va faire que s'aggraver. Selon l'IRM, en 2050, on aurait au moins une vague de chaleur pour par été tant en milieu rural qu'en milieu urbain. Et donc on peut dire que l'ensemble du territoire est exposé au risque de vagues de chaleur. Par contre, et ça m'amène à la première dimension du risque, on a certaines populations qui sont beaucoup plus exposées que d'autres. Et c'est notamment les populations qui vivent, par exemple, en milieu urbain, ou pire encore, dans des îlots de chaleur, donc sont ces zones extrêmement denses où la chaleur s'accumule. De la même façon, les personnes qui vivent dans des logements qui sont mal isolés, ce qu'on appelle les bouloirs thermiques, qui surchauffent en fait en été, sont aussi beaucoup plus exposés que le reste de la population. Et là, en Belgique, on a quand même 13% de la population qui vit dans un logement qui ne peut pas être maintenu confortablement frais en été. Aussi, on parle de la qualité des logements, mais le fait de ne pas avoir de logement rend également beaucoup plus exposé à ces risques. Et le fait d'être sans domicile, il y a beaucoup de travaux qui le montrent, que les personnes sans domicile sont extrêmement exposées à ces risques. Et puis, on a également certains travailleurs qui sont plus exposés que d'autres, et notamment tous les travailleurs qui travaillent à l'extérieur. Et on pense notamment à ceux dans la construction, un secteur qui est amené à se déployer pour assurer la vague de rénovation. Et donc, ces travailleurs sont extrêmement vulnérables à ces risques. Alors nous arrivons maintenant à la deuxième dimension qui est la sensibilité. Et là, il y a beaucoup de travaux qui montrent que l'âge est un facteur extrêmement déterminant, avec les plus jeunes, donc les enfants, et les plus vieux qui sont particulièrement sensibles au risque de vagues de chaleur. Et bon, là, évidemment, on a des tendances en Belgique, mais partout en Europe, qui sont assez inquiétantes. Avec le vieillissement de la population, on a une part de plus en plus importante de la population qui va devenir extrêmement sensible à ce risque. À côté de l'âge, il y a également l'état de santé. Donc, on sait qu'une mauvaise santé, en fait, rend beaucoup plus sensible au risque de vagues de chaleur. Et à nouveau, là, on a en Belgique des tendances extrêmement inquiétantes avec une hausse des maladies chroniques qui touchent maintenant une personne sur trois, une hausse du surpoids qui affecte près de la 50% de la population, ainsi qu'une hausse des maladies, des troubles anxieux et dépressifs qui touchent 20% de la population. Donc on a en Belgique une population qui est extrêmement et de plus en plus sensible à ces vagues de chaleur, ce qui pose de véritables problèmes pour l'avenir et pour aujourd'hui déjà. Alors tout ceci nous conduit à la troisième dimension, qui est la capacité d'adaptative, donc la capacité à se préparer et à répondre aux risques de vagues de chaleur. Alors là, il y a énormément de facteurs, donc je vais en présenter quelques-uns de manière illustrative, à commencer par la capacité à pouvoir rénover son logement, parce qu'on l'a dit, le logement, ça renforce l'exposition aux vagues de chaleur, et donc le fait d'avoir la capacité financière pour soit financer les travaux, soit faire un emprunt, c'est un déterminant pour pouvoir se préparer aux risques. Et là, il y a quand même une étude qui montre que 20% des Belges n'ont pas la capacité à rénover leur logement. De la même façon, le fait de ne pas être propriétaire de son logement rend les travaux de rénovation particulièrement difficiles. Aussi, un autre facteur important, et bien on en a déjà parlé tout à l'heure pour les inondations, ce sont les liens sociaux. Les liens sociaux permettent également de faire face à ces risques de vagues de chaleur. Et là, à nouveau, on a des tendances inquiétantes avec l'épidémie de solitude qui touche aujourd'hui la Belgique, bon nombre de pays d'Europe, et notamment les personnes âgées qui les rendent particulièrement vulnérables à ces risques. Et puis finalement, on peut aussi penser à la qualité de l'environnement urbain avec la présence d'espaces verts qui est important pour s'adapter à ces risques, car ils peuvent servir de refuge en cas de vagues de chaleur. Et là, à nouveau, des travaux montrent qu'il y a quand même des millions de Belges qui vivent dans des quartiers qui manquent d'espaces verts ou de couverture arborée. Donc, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas se protéger en cas de vagues de chaleur. Donc ça, c'était les différents facteurs de la vulnérabilité institutionnelle. Et ici, par exemple, on peut imaginer une fragilisation du financement du système de retraite liée à une réduction de la productivité du travail, mais aussi, comme pour les risques d'inondation, les problèmes de saturation de capacité hospitalière qui pourraient faire qu'on ne pourrait pas traiter tous les patients. Donc voilà un peu l'idée de la matrice qui vise à travers les différentes dimensions du risque, à collecter différents indicateurs pour pouvoir avoir une meilleure compréhension des différents facteurs de vulnérabilité et de leur état en Belgique, avec l'idée finalement de développer sur cette base des politiques publiques qui permettent de s'attaquer structurellement à ces facteurs de vulnérabilité. Alors dans le rapport, à titre d'exemple, on a identifié quelques politiques qui pourraient être mises en place pour réduire ces vulnérabilités au risque. On l'a fait à titre illustratif, mais idéalement, c'est quelque chose qui doit faire l'objet d'un débat public démocratique, tout comme l'identification des facteurs de vulnérabilité. Et donc ici, comme le temps est compté, je vais me focaliser sur deux politiques qui pourraient être mises en place pour répondre aux facteurs de vulnérabilité qu'on a identifiés, à commencer par des politiques qui visent à recenser et protéger les habitants vulnérables en ville. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est que ce type de politiques, elles existent déjà aujourd'hui, et notamment à Vienne. Donc à Vienne, dans le cadre du projet Kuhlstraße, la ville a en fait identifié les rues dans lesquelles il y a le plus d'habitants vulnérables sur la base d'une carte qui combine à la fois l'identification des îlots de chaleur, l'identification des zones avec le plus de personnes âgées et le plus d'enfants, et l'identification des zones avec le moins d'espace vert. Et donc, sur base de la carte, ils ont identifié une série de rues qui sont particulièrement vulnérables aux risques vagues de chaleur. Et dans ces rues, durant toute la période estivale, ils ont bloqué la circulation et installé des infrastructures, soit permanentes, soit temporaires, pour faciliter le rafraîchissement. Par exemple, de la végétation, également des plans d'eau, des brumisations, également des infrastructures qui permettent de faire de l'ombre. Et ce qu'on a observé, c'est que dans certaines rues, ça a quand même permis de réduire de 3 degrés la température. Et de façon plus générale, ça a amélioré le bien-être des populations, vu qu'il n'y a pas de voiture, ça favorise les autres activités, les enfants peuvent jouer dans la rue. Donc c'est vraiment un projet que je trouve extrêmement intéressant et inspirant. Alors, un autre axe important, c'est la prévention sanitaire, parce qu'on l'a vu, l'état de santé des Belges n'est pas super, et ce qui les rend extrêmement vulnérables au risque de vagues de chaleur. Et ce qu'on n'a pas vu dans les chiffres, c'est la santé des enfants, mais il y a quand même beaucoup de travaux qui montrent qu'aujourd'hui, en Belgique, on a, je crois, 1 enfant sur 5 en surpoids, et il y a une hausse du diabète chez les enfants liée à une mauvaise alimentation et un manque d'activité physique. Et là, je pense qu'il faut vraiment développer une politique de prévention à ce niveau-là, et on peut intéressé à ce qui se passe chez nos voisins scandinaves, et notamment la Finlande, qui a mis en place un système de repas scolaires équilibrés et gratuits dans les écoles, ainsi qu'un système également de loisirs gratuits pour tous les enfants dans les écoles, ce qui permet de pratiquer beaucoup plus de sport et de manger sainement tous les jours. Aussi, on peut s'intéresser à la Norvège, qui est le premier pays au monde à avoir interdit la publicité pour les aliments malsains à destination des mineurs afin de lutter contre ces pratiques commerciales dangereuses pour la santé. Donc ça, c'est quelques exemples, mais il y en a encore beaucoup d'autres. Et si ça vous intéresse, on est actuellement en train de les recenser dans le cadre d'un autre projet que je mène à Sciences Po Paris avec Éloi Laurent, où on développe une boîte à outils des politiques d'économie du bien-être. Donc on va présenter 100 de politiques pour montrer qu'en fait, on a déjà aujourd'hui des clés, il y a déjà des politiques qui existent pour améliorer le bien-être humain dans les limites planétaires. Alors, à côté de la matrice, on a également imaginé des personas qui représentent des profils de vulnérabilité aux vagues de chaleur, avec cette idée que la matrice, elle ne permettait pas de rendre compte de la manière dont différents facteurs de vulnérabilité se combinent pour former des vulnérabilités, ni comment différents risques peuvent se combiner pour former des vulnérabilités multiples. Et donc là, on n'a pas le temps de les présenter, mais je vais juste vous présenter Colette, pour illustrer un peu le propos, qui est une retraitée qui touche une maigre pension et qui vit seule dans un immeuble ancien dans le quartier d'Anse-Ducle. Elle s'inquiète à la fois des vagues de chaleur pour sa santé, mais aussi de la décision du gouvernement de la région bruxelloise lui imposant de rénover son logement. Donc ça montre vraiment que ces risques ils peuvent affecter de manière multiple certaines populations, et c'est beaucoup plus complexe que des matrices, et c'est important d'avoir cette approche qui permet d'analyser finement ces vulnérabilités au pluriel. Alors, on a fait également des matrices pour le risque d'inondation et également un risque de transition sociotechnique, qui est le risque de la transition vers zéro émission nette en matière de mobilité. Malheureusement, je n'ai pas le temps de vous les présenter, mais je vous présenterai juste un persona pour le deuxième type de risque, pour que vous ayez un peu une idée du type de vulnérabilité, et notamment Caroline, qui est l'archétype des gilets jaunes, en fait, qui est une mère célibataire qui loue une maison mal isolée dans une zone périurbaine à Tournai, qui est peu accessible en transport en commun, et qui travaille comme aide-soignante à domicile. Donc Caroline, elle appréhende l'impact de la hausse des prix de l'essence et du mazout de chauffage sur sa capacité à subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants. Donc comme pour les vagues de chaleur, on voit à nouveau que c'est plusieurs facteurs qui s'articulent, qui font système et qui créent ces vulnérabilités. Et donc c'est vraiment sur ces différents facteurs multiples que les politiques devraient idéalement se focaliser. Et donc je laisse la parole à Pascal.
Merci Aurore. Donc je pense qu'Aurore a bien montré que ce risque social écologique, il est à la fois très dispersé. Il peut toucher tout le monde et à la fois concentré sur certaines personnes qui cumulent une série de caractéristiques territoriales, personnelles, de santé, etc. Alors, le rapport, il parle de protection sociale. Et donc, la première chose qu'on a voulu mettre en évidence, c'est qu'en fait, la sécurité sociale telle qu'on la connaît aujourd'hui est l'outil de mutualisation par excellence qui s'est mis au service d'une grande transition qui était celle de l'après-guerre vers un système économique productiviste, extractiviste. Et que la Sécu, ça a été à la fois l'instrument qui a soutenu ce système de production, mais c'est aussi le système de production qui a alimenté la Sécu et qui, en fait, est à l'origine de la crise écologique que l'on connaît aujourd'hui. Donc, il est évident qu'à partir du moment où on veut entrer dans une transition écologique, on doit aussi transformer notre outil de sécurité sociale pour qu'il s'adapte à un nouveau modèle économique. L'enjeu n'est pas seulement de soutenir la transition écologique, c'est un enjeu évidemment, mais c'est aussi de rester attaché à des valeurs fondamentales dans notre société. Donc l'idée, c'est quand même que cette transition écologique soit juste et que la sécurité sociale, cet outil de mutualisation, puisse être au service de cette transition juste, c'est-à-dire garantir des besoins essentiels pour garantir une vie digne à chacun, réduire les inégalités et respecter les droits fondamentaux. Et on considère qu'au cœur de ce projet, ce qui doit être présent dans la crise écologique, c'est la notion, la valeur de care, qui est à la fois une notion morale, éthique et politique au sens où la définit Joanne Tronto. Et j'aime beaucoup sa définition que vous connaissez certainement, mais que je vais relire parce qu'on ne la relit jamais assez. C'est une activité générique qui comprend tout ce que nous faisons pour maintenir, perpétuer et réparer notre monde afin que nous puissions y vivre le mieux possible. Ce monde comprend notre corps, nous-mêmes et notre environnement que nous cherchons à relier en un réseau complexe en soutien à la vie. Donc voilà. Pourquoi c'est très important de mettre ces valeurs au cœur du système de protection sociale de demain? C'est parce que c'est indispensable pour soutenir notre système démocratique, pour assurer l'efficacité des politiques écologiques, on l'a dit, mais surtout aussi leur légitimité. Et donc le phénomène des gilets jaunes, dont évoqué par Aurore, est typiquement un enjeu, enfin, montre à quel point, quand ces mesures ne sont pas bien pensées, elles peuvent mettre en danger tout le système démocratique. Je pense que voilà, il y a un enjeu de justice sociale et un enjeu de démocratie. Alors le risque social écologique, quand on le transforme, quand on le pense en termes de protection sociale, il va affecter, on l'a vu, des besoins essentiels qu'il convient d'identifier. Ça peut être le logement, ça peut être l'eau, ça peut être la santé, ça peut être la nourriture, ça peut être la mobilité. Et il va affecter des publics vulnérables. Donc la première chose à faire, c'est évidemment, comme l'a montré Aurore, d'identifier les besoins essentiels affectés et les publics vulnérables affectés. Et pour chacun de ces besoins essentiels, d'essayer de réfléchir en termes d'approche intégrée. Je vais expliquer ce qu'on entend par approche intégrée. C'est d'une part garantir les besoins essentiels, par exemple en cas d'inondation, s'assurer que les gens ont un logement, accès à l'eau, accès à l'énergie, aux soins de santé. C'est d'autre part indemniser, parce que beaucoup, et ça c'est notre étude part de ce constat, aujourd'hui les assurances privées n'indemnisent plus une série de dommages causés par les catastrophes écologiques. et c'est d'inclure, c'est-à-dire de remettre les personnes dans la société, au travail ou dans une activité qui soit compatible avec la crise écologique, avec la transition écologique. Il s'agit aussi, et c'est là qu'on s'émancipe d'une notion de sécurité sociale qui est juste quelques risques, mais il s'agit aussi de prévenir, de préparer et d'accompagner. Donc là, on va bien au-delà de juste indemniser ex post. Les principes qui doivent gouverner les politiques qui sont mises en place, c'est d'abord l'idée de réduire ou à tout le moins ne pas aggraver les inégalités. C'est d'assurer que les prestations et les organisations qui assurent l'accompagnement, l'inclusion, l'indemnisation, etc., soient elles-mêmes éco-compatibles. Et pour ça, bien, on a identifié que les protections collectives sont préférables quand c'est possible aux protections individuelles. Pensons transport public versus des transports privés. En nature, sont préférables en espèces, parce que quand c'est en espèces, ben, y a des effets d'aubaine et on alimente toujours la croissance, en fait. Et voilà. Et on a surtout montré que les services de base universels en matière de santé, en matière de transport, sont préférables à d'autres solutions comme des indemnités. Et puis, il faut adapter les critères budgétaires et actuariels aux risques sociaux écologiques. On ne peut pas continuer à réfléchir sur des tables actuarielles du passé, alors que demain, on ne vivra pas de la même manière en bonne santé aussi longtemps, par exemple. Les exemples qu'on développe dans le rapport, c'est, par exemple, les territoires zéro chômeur de longue durée. Ça, c'est une approche intégrée. La sécurité sociale de l'alimentation, les marchés traditionnels ou encore les maisons médicales. Donc, au cœur de cette protection, il y a le maintien du revenu. On propose une institutionnalisation d'un secteur de nouveau de la sécurité sociale pour protéger les vulnérabilités sociales et écologiques. Elle doit couvrir les besoins essentiels. Elle doit inclure socialement dans les secteurs et activités porteurs pour la transition. On propose de reconnaître un droit à la formation et à la requalification dans ces secteurs, des réductions ciblées de cotisations sociales, cette fois-ci sur ces activités et secteurs, des extensions des congés parentaux aux activités porteuses de sens pour qu'on puisse dégager du temps pour se consacrer à la transition, et un revenu de transition écologique pour les personnes qui veulent s'engager dans des activités de ce type, comme par exemple c'est déjà le cas dans le canton de Vaud. On considère également, et ça c'est au cœur de notre proposition, que la gouvernance doit être profondément transformée. On a parlé d'État-providence, on a parlé d'État social actif, et nous on parle avec d'autres, d'enabling state, c'est-à-dire d'un État habilitant qui se met aux côtés de ses citoyens, qui écoute les besoins des citoyens et qui y répond en les associant aux propositions de solutions, c'est-à-dire d'élargir la concertation sociale à d'autres acteurs, finalement, que les acteurs classiques. Et là, pour cet exemple-là, pour cet aspect-là, il y a deux exemples qui nous paraissent très intéressants en Belgique, qui sont d'une part ce qu'on appelle les experts du vécu, qui sont déjà souvent associés en matière de santé publique, par exemple, aux solutions proposées, mais aussi les maisons médicales que je pourrais développer éventuellement dans la discussion, qui sont emblématique de cette gouvernance habilitante. C'est la gouvernance qu'on n'a pas eue pendant le Covid, en fait. C'est opposé à une gouvernance par les nombres qui regarde des indicateurs, nombre de lits, nombre de morts, une gouvernance qui se met aux côtés des citoyens pour les habiliter, pour les aider, pour les écouter. Voilà. Donc, on peut résumer nos propositions comme suit. Démocratiser la conception et la mise en œuvre de la protection sociale écologique, mutualiser des fonctions de protection collective pour faire face aux risques socio-écologiques, institutionnaliser la matrice des risques dont a parlé Aurore dans un observatoire des transitions justes en Belgique, réviser les bases actuarielles qui soutiennent l'équilibre de la protection sociale, rendre les prestations et organisations de protection sociale compatibles avec les limites planétaires et plaider auprès de l'Union européenne pour établir un cadre qui facilite la construction de ces systèmes, parce qu'aujourd'hui, l'Europe met beaucoup de barrières, notamment en termes de, voilà, budgétaires, et développer les connaissances et les compétences, ça veut dire soutenir la recherche, parce qu'il y a encore beaucoup de recherches à effectuer pour comprendre les vulnérabilités sociales, écologiques et les réponses à y apporter. Est-ce qu'on est prêt à ça ? Alors, il y a plein d'obstacles. On est évidemment dans un contexte politique qui n'est ni favorable à l'écologie, ni favorable à la sécurité sociale et à la protection sociale. On en est tous conscients. Mais on est aussi dans un pays qui est catégorisé comme un pays conservateur, c'est-à-dire qui est peu propice aux transformations en général politiques, parce qu'il est pilarisé très fortement. Et dans ce pays, les interlocuteurs sociaux jouent un rôle très important. Alors, il y a deux défis à cet égard-là. Est-ce que les interlocuteurs sociaux sont d'accord et en mesure d'ouvrir la participation à d'autres groupes sociaux pour, par exemple, créer une branche nouvelle de la sécurité sociale ? Et alors, pour le marché du travail, là, en général, ils sont assez d'accord pour tout ce qui est risque de transformation biophysique, ils sont assez d'accord d'avancer sur ces aspects-là. Mais lorsqu'il s'agit de reconvertir des secteurs entiers avec des risques de perte d'emploi, etc., c'est beaucoup plus compliqué, je pense, pour les interlocuteurs sociaux de s'engager dans ce type de solution. Et donc, voilà, c'est des questions que je lance pour Felipe, évidemment. Et je termine là-dessus et je vous remercie pour votre attention.
Merci beaucoup. Merci Pascal, merci Aurore. Felipe, je te cède déjà le micro.
Merci.
Ça va ? Vous tenez le coup ? On a fait le choix de laisser un temps de présentation complet pour pouvoir après venir avec certaines questions, appuyer sur certains éléments. Et donc j'espère que votre attention a été au top, du début à la fin. Et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave parce qu'on va creuser les différents éléments. Peut-être avant d'aller un petit peu plus loin sur ces nouveautés qui sont proposées, ce nouveau concept, cette nouvelle manière de regarder la question de la protection aujourd'hui dans nos sociétés actuelles. Peut-être petit arrêt sur image. Pascal, tu as bien défini ce que vous entendiez, ce que tu entendais par la protection sociale. Moi, je voudrais poser la question à Felipe. Est-ce que toi, tu aurais une autre définition de la protection sociale ou est-ce que tu t'intègres dans la même définition qui a été proposée aujourd'hui ? On a eu la chance hier d'avoir une explication de la sécurité sociale en quelques minutes par Laurence sur cette scène. Donc, je suis sûre que vous maîtrisez désormais ce concept parfaitement. Je vois des hochements de tête. Bravo, Laurence. Mais donc, Felipe, je me permets cette première question par rapport à la protection sociale, la sécurité sociale. Je pense que tu peux distinguer les deux et nous dire comment est-ce que toi, tu les définirais.
OK. Merci, Marie. Merci à Ecolo et Topia de m'avoir invité. Je ne vais pas faire ce que tu avais dit de faire de la propagande pour la CNE, parce que la grande majorité d'entre vous savent déjà que c'était un syndicat merveilleux. Et ceux qui ne le savent pas, je préfère leur laisser la chance de le découvrir par eux-mêmes. Par contre, pas de chahut dans la salle à la gauche. Par contre, ce qui est important, avant de répondre à la question, Marie, c'est tant qu'Écolo invitera des syndicalistes, peu importe lesquels, c'est une bonne chose pour moi d'avoir un parti qui reste, ou qui reste encore plus qu'avant, enraciné dans la classe travailleuse. Je pense que c'est une question essentielle. Alors, moi, oui, je vais distinguer sécu et protection sociale. Je pense que les autrices du rapport et qui viennent de parler le font aussi. Et une grande partie de ma réponse va se centrer sur la sécurité sociale au sens strict, même si après, il y a des tas de choses passionnantes qui ont été dites plus largement. Donc, la sécu, c'est un régime de redistribution des revenus qui est basé sur les cotisations sociales qui sont une partie du salaire, hein, vous savez ça. À titre marginal, l'État intervient, mais fondamentalement, c'est une mutualisation des salaires qui permet de protéger les travailleurs contre des risques, risques étant mis entre guillemets, parce que, par exemple, le fait de vieillir n'est un risque que si on considère l'alternative qui est de mourir. Et donc, voilà, c'est des risques au sens des événements de la vie. Et donc, pour moi, la Sécu, au sens étroit du terme, c'est une socialisation d'une partie importante des salaires pour découpler mes possibilités de vivre comme travailleur de mon travail actuel aujourd'hui. Je suis malade, je suis handicapé, je suis pensionné, je suis en créditant. Ça ne change pas fondamentalement le fait que je reste un salarié avec un revenu. Ça, c'est la sécu. Protection sociale, peut-être que je vais dire des bêtises parce que je n'ai pas le dixième des compétences, évidemment, de Pascal et d'Aurore sur cette question-là. Mais pour moi, je la comprends comme très large, ce qui permet de garantir aux citoyennes et aux citoyens, y compris les citoyens sans papier, évidemment, des conditions décentes de vie, santé, etc. Donc ça devient évidemment extrêmement large. Bon.
Et ce sera une des questions dans la suite, tout à fait. Oui. Peut-être avant de te laisser continuer, Philippe, quand moi j'ai découvert ce concept et votre étude, j'ai été d'abord marquée par le fait que c'était finalement la réalisation de ce constat que nous nous efforçons de poser dans les médias qui nous ont rejoints. Et bienvenue, asseyez-vous avec nous pour faire ce débat, que nous discutons avec les citoyens, avec les citoyennes, que nous essayons d'imposer dans le débat public, le constat que nous sommes aujourd'hui face à une transformation majeure de nos sociétés, de notre environnement, avec évidemment une source dans le productivisme, dans le capitalisme, et donc une nécessité de faire autrement. Quand j'ai dit ça, j'ai pas encore grand-chose, mais mine de rien, poser ce constat-là, c'était pas tellement une évidence il y a 10 ans. Et moi, juste le fait qu'il y ait aujourd'hui aussi des académiques, et comme tu le précisais, Pascal, avec des disciplines très différentes, qui posent ce constat-là et qui se disent « Ok, mais partons de là, comment est-ce qu'on peut faire ensemble dans la suite ?» c'est quand même, à mon sens, quelque chose qu'il faut pouvoir souligner. Ce constat partagé, il nous amène à un autre constat qui est qu'aujourd'hui, et vous l'avez très bien montré, la sécurité sociale telle qu'on la connaît, elle est sous pression. La sécurité sociale, comme tu disais au sens étroit du terme, elle est déjà sous pression. C'est-à-dire que ce qui est déjà les risques qui sont habituellement couverts par la sécurité sociale sont sous pression parce qu'ils s'accentuent du fait des dérèglements climatiques et environnementaux. Mais aussi parce que, comme nos économies sont très largement victimes, d'une certaine manière, de ces dérèglements, le financement même de cette sécurité sociale pose aussi question. Et on sait que c'est un débat, c'est un combat qu'on mène jour après jour, et vous allez encore l'entendre tout à l'heure dans notre discours, et puis bien sûr dans toutes les interviews de rentrée, le financement de la sécurité sociale est un élément clé, mais qui n'est pas toujours relié à ces nouveaux risques, à ce risque de financement qu'on peut déduire du fait que nos économies vont être sous pression à cause des dérèglements climatiques et environnementaux. Et ça, c'est vraiment un point sur lequel on n'insiste peut-être pas assez. Je le disais, les risques habituels sont sous pression, mais comme vous l'avez bien montré aussi, il y a des nouveaux risques qui apparaissent. Et c'est en cela que l'étude que vous proposez permet finalement de reposer la question de manière globale et de dire, mais tiens, comment est-ce qu'on peut, d'une manière systémique, ce qui nous plaît évidemment, nous, beaucoup écologistes, comment est-ce qu'on peut répondre à ces questions ? L'autre point que je voulais souligner avant de lancer le débat, c'est que finalement, votre proposition, elle permet de dire, tiens, la sécurité sociale ou la protection sociale, pour utiliser un meilleur terme, la protection sociale est fondamentalement un outil de la transition. Et ça, c'est parfois un discours que nous entendons peut-être pas assez souvent. On est plutôt dans des logiques d'opposition d'habitude. Hein, finalement, on se lance dans des grands débats budgétaires et puis on se dit oui, non, mais il faut vraiment préserver, il faut absolument préserver les allocations de chômage, il faut absolument investir dans la transition, il faut absolument faire ci, il faut faire ça. Etc. Oui, très bien. Votre proposition a le mérite de dire c'est une question globale et on peut relier les deux parce qu'au cœur de la protection sociale et écologique, on peut avoir des mécanismes qui viennent corriger ce qui créerait des nouvelles victimes de la transition, mais on peut aussi avoir des logiques performatives, c'est-à-dire qu'on peut, au cœur de ce système-là, mettre en place des choses qui vont faire changer les comportements et donc agir à la source. Ça fait aussi beaucoup le lien avec des discussions qu'on a, notamment avec nos partenaires mutualistes, il y en a aussi quelques-uns dans la salle, qui réfléchissent aussi à cette question des déterminants de la santé, qui réfléchissent à être vraiment dans un enjeu de prévention plutôt que de gestion des risques une fois qu'ils sont déjà posés. Et ça me semblait quand même un élément intéressant. Je me permets alors, Philippe, de revenir vers toi avec cette question très simple. Ça, ce sont moi les choses qui m'ont impressionné dans cette démarche et dans cette approche. Est-ce qu'il y a des choses, toi, qui t'ont marqué quand tu as découvert cette étude? Tu te dis, bah oui, ça, c'est chouette, c'est révolutionnaire. Nous, on ne l'avait peut-être pas pensé comme ça.
Oui, il y en a beaucoup. Je vais me limiter à 3. vu que le temps est limité. Le premier, c'est que la Sécu et la protection sociale sont vues comme un processus qui doit évoluer et pas comme une cathédrale à défendre. C'est un défaut de certains syndicalistes qui disent « la Sécu, c'est tellement bien, ils ont raison, n'y touchons pas », comme si c'était un chef-d'œuvre en péril. C'est une catastrophe. Vouloir sauver la Sécu, c'est une catastrophe. Il ne faut pas la sauver. Il faut la développer. Il faut l'agrandir. Il faut la faire changer. Et donc, j'aime bien que les collègues qui ont fait ce travail se disent la Sécu, la protection sociale, c'est un processus qu'on peut améliorer et, à mes yeux, qu'on peut largement agrandir et renforcer. Ce qui est autre chose que de mettre sous cocon en espérant qu'il ne s'effondre pas trop vite. C'est un peu général ce que je dis là, mais j'aime bien cette vision ambitieuse d'une société solidaire et humaine. Le deuxième point que j'aime beaucoup, qui n'est pas exclusivement présent dans cette étude, mais qui est très présent, c'est ce à quoi Aurore et Pascal ont fait notamment référence sous les termes de service de base universel. Et plus largement, il me semble que quand on dit qu'un certain nombre de biens ou services essentiels doivent être découplés du marché, sortis du marché, gratuits ou tarifés à très bas prix, en fait, on réalise quelque chose qui est la bonne réponse à une bonne question à laquelle la mauvaise réponse est l'allocation universelle. La phrase est un peu compliquée, mais vous m'avez compris. Je pense qu'il y a réellement une bonne question de dire « chaque humain a droit à alimentation correcte, logement, transport, je ne sais pas quoi ». Ma conviction, avec laquelle certains d'entre vous ne seront pas d'accord, c'est que l'allocation universelle est une très mauvaise réponse, mais que par contre les services de base universels, les services publics, les services non marchands correctement organisés, sont la bonne réponse. Et je suis très heureux de mettre ça en avant, y compris parce que ça repolitise de façon très positive la vie en commun. Parce que c'est quoi les besoins essentiels ? La phrase, elle est belle de dire qu'il faut satisfaire le besoin essentiel. Mais est-ce que acheter un drone et en changer tous les 6 mois fait partie des besoins essentiels ? Peut-être pour moi, oui, peut-être pas pour vous. Mais donc, ça veut dire qu'il y a une décision collective. Et donc, ça veut dire que dans la démocratie, il y a aussi la question de dire est-ce que l'accès à l'eau potable est un besoin essentiel ? Enfin, ça, c'est facile. Mais l'accès à la culture, à la piscine municipale, enfin, bon, on peut... C'est un débat vraiment intéressant, je pense. Troisième et dernière chose, parce que je peux être bavard, hein, c'est qu'il y a un choix clair qui est fait. À un moment donné, je crois que c'est Pascal qui a évoqué l'idée de dire des prestations en nature sont préférables à des prestations en cash. Vous savez que pour l'autonomie personnes âgées, on a 2 systèmes en Belgique. En Flandre, c'est le chèque autonomie. Donc on donne de l'argent tous les mois aux gens qui ont tel âge, je ne sais pas à partir de quel âge, tandis que dans le sud du pays, on a plutôt une prestation de service. Pourquoi est-ce que nous préférons fortement la subvention de l'offre à la solvabilisation de la demande, comme disait un de mes collègues? C'est que, en fait, le système flamand dans ce cas-ci, ou le fait de donner du cash aux gens qui sont en situation de vulnérabilité, ça renvoie tout le monde au marché. Et donc, y compris celui qui n'a pas besoin de cet argent, mais il va peut-être juste se payer un aller-retour à Tenerife en plus avec ce chèque-là. Et celui qui a très fort besoin d'argent, il va peut-être juste payer ses factures de mazout, de sa passoire énergétique avec ça, et il n'aura pas répondu à la demande. Tandis que, et je te promets que je m'arrête là, le fait d'avoir des services collectifs subventionnés dans le cadre du CARE, du service public, etc., ça fait de la Sécu, en partie, un instrument écologique de lutte contre les dégâts de la croissance. Parce qu'on peut dire, on va mettre de l'argent dans le CARE, et donc on ne le mettra pas dans le remplacement de mon drone, par exemple, qui est très, très urgent. Et donc ça veut dire qu'on pilote la consommation collective, pour une partie au moins du revenu.
Merci Felipe, et sans le savoir peut-être, tu me fais un lien parfait sur ma prochaine question, parce que ce qui moi me frappait aussi, c'était l'ampleur. Et tu l'exprimais aussi Pascal un peu, quels sont les contours finalement. Une des remarques qu'on entend quand même à propos de ce projet-là, et parfois aussi du côté syndical, tu l'as dit avec plus de nuances Felipe, mais c'est qu'est-ce qui devrait finalement rentrer ou pas ? Quand on en vient à parler de la question de l'isolation des bâtiments, c'est évidemment bien sûr une question de protection qui est essentielle, mais faut-il étendre jusque-là ? C'est-à-dire que si on prend la chose d'un point de vue très systémique, on pourrait se retrouver avec à peu près, avec une grande majorité en fait, des politiques qui peuvent être menées par les États, par les entités fédérées, qui se retrouveraient alors dans ce nouveau concept, dans cette nouvelle boîte, avec sans doute des questionnements dès lors sur le financement, et sur la gouvernance, puisque le modèle de sécurité sociale qu'on connaît aujourd'hui a une gouvernance très spécifique, et Felipe en parlera sûrement mieux que moi tout à l'heure, avec une logique aussi de représentation. La question de la gouvernance, c'est un enjeu que vous travaillez aussi dans l'étude, avec ce besoin de pouvoir se rapprocher aussi des publics qui utilisent directement les services, et donc d'avoir quelque part une démocratie plus importante dans ces logiques de gouvernance. Mais j'avais envie de vous relancer là-dessus sur jusqu'où faut-il élargir le spectre. On parle de sécurité sociale de l'alimentation, on parle d'un certain nombre de nouveaux droits qu'on voudrait faire rentrer. Quelle est la limite ?
Merci Marie, ça c'est vraiment une très très bonne question. En fait, la sécurité sociale, telle que l'a définie très bien Felipe, elle est aujourd'hui, vous le savez, logée au niveau fédéral. Les enjeux de préparation et de prévention, eux, se trouvent au niveau des régions et des communautés, ce qui explique qu'il n'y a absolument pas de politique cohérente pour répondre à un besoin essentiel comme la santé, par exemple, ou si vous ne faites rien au niveau régional, vous allez pas, c'est pas vous qui allez payer les pots cassés après, c'est la sécu au niveau fédéral. Donc on se rend déjà bien compte que là, notre système est mis à mal, mais il est d'autant plus quand on parle du risque social écologique. Et je pense qu'à la question que tu poses, qui est vraiment une excellente question, il y a deux aspects importants. Le premier, c'est qu'il y a un besoin de coordination institutionnelle beaucoup plus fort. C'est pour ça qu'on propose cet observatoire des transitions justes, qui est aussi une proposition qui est issue des travaux du Haut Comité à la transition juste, dont la plupart des membres de notre équipe ont fait partie, sous l'égide qui avait été initiée par Zakia Katabi. Mais il faut répondre à ça de manière extrêmement pragmatique. Et je vais donner l'exemple, ça me donne l'occasion de parler des maisons médicales. Les maisons médicales, typiquement, voilà un exemple qui permet d'être au plus proche des citoyens, de faire à la fois de la prévention, de la préparation, de faire participer les bénéficiaires, les aidants, les soignants, de manière très démocratique, sans pour autant bouleverser toute l'institution. Et je pense que ça, c'est de cette manière-là qu'il faut travailler, besoin par besoin, en étant super concret à chaque fois. Évidemment, il y a un champ énorme à déployer à partir de là. Et il y a déjà des bribes, la sécurité sociale de l'alimentation, les territoires zéro chômeur, mais il faut poursuivre, et c'est là que la recherche, les acteurs de terrain, les interlocuteurs sociaux, les décideurs politiques, les citoyens doivent pouvoir se mettre ensemble pour pouvoir réfléchir aux solutions.
Merci. Felipe, même question.
Oui, donc moi je serais attaché, comme je l'ai dit en commençant, je crois, à bien distinguer la sécu dans l'ensemble des politiques sociales. Il me semble que à peu près tout ce que j'ai lu dans la synthèse, de 30 pages quand même du rapport, j'y souscris quasiment à tout. Mais pas tout dans le cadre de la sécu. Et moi je serais attaché à quand même protéger un périmètre de gouvernance, on va en parler tout de suite, qui est celui typiquement de la sécu, mutualisation des ressources et de la gouvernance, parce qu'il y a des réponses aux questions que vous soulevez qui relèvent de politique générale, de la fiscalité, de l'aménagement du territoire, on parle des inondations, je ne sais pas quoi, ou de la verdurisation des rues dans les villes, ça c'est pas de la sécu, mais c'est un enjeu de protection sociale et donc de pouvoir politique. Et il y a aussi des enjeux, j'aimais bien la référence à la Norvège et à la publicité pour la malbouffe, qui sont du pouvoir régalien. Parfois, je trouve qu'on est dans des contorsions pour se dire comment est-ce qu'on va inciter, dissuader, encourager, contrôler des Nutri-Score et je ne sais rien quoi. Merde, ce qui est mauvais, on l'interdit. Point. On interdit la publicité, on interdit la commercialisation. Il y a des tas de choses qu'on interdit qui sont moins dangereuses que ce qu'on nous vend dans les magasins et c'est pourquoi on fait de la publicité tous les jours. Donc je pense que votre approche avec la matrice globale des risques, je la trouve super intéressante parce que ça permet de voir la diversité des risques et la manière dont ils se combinent entre eux. Donc je trouve ça super intéressant. Mais les réponses ne sont pas toujours dans le périmètre de la sécu. Parfois, oui. Et donc après, il faut voir... parce que j'ai quand même toujours un peu cette peur. Je disais à Marie, j'ai bien joué mon rôle de pachyderme archaïque syndicaliste. Toujours un peu peur quand même que... à trop déstabiliser la sécu dans un contexte extrêmement hostile, la sécu dans le capitalisme, elle est par définition en contexte hostile, puisque c'est un outil anticapitaliste, ou ça peut l'être. Mais là, maintenant, c'est grave. Et donc, j'ai aussi envie qu'on voit quelles sont les questions qui s'adressent à la sécu, légitimement, et d'autres qui s'adressent aux politiques de santé, à la fiscalité. Bon.
Alors, tant que tu as le micro, Felipe, je voudrais revenir avec toi sur cet élément de la gouvernance, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde ait exactement en tête ou maîtrise bien quelle est la gouvernance, en fait, dans la sécurité sociale. Alors, on l'a un peu appris hier avec Laurence, notamment, mais ça me semble intéressant, Felipe, que tu puisses peut-être repréciser cet élément-là en profitant peut-être pour dire, tiens, cette expérience que nous avons de ce type de gouvernance-là, qu'est-ce qu'il peut nous apprendre dès lors qu'on va devoir travailler sur la gouvernance par rapport à des nouveaux droits, par rapport à des nouveaux espaces de protection sociale et écologique?
Oui, merci. C'est un point qui est assez important pour moi. Je crois que c'est Etopia qui a publié il y a 10 ou 20 ou 30 ans, je ne sais plus, un article que j'avais fait sur la comparaison des tables rondes et des tables rectangulaires. Non pas que j'ai des prétentions dans le design d'intérieur, mais la sécu, c'est une gouvernance par la table rectangulaire. Ça veut dire que c'est une table qui est longue, littéralement parlant, hein, si vous allez dans les salles de réunion du ministère de l'Emploi, ce sont des tables avec deux bancs, hein, et donc vous avez le banc patronal, le banc syndical, et on ne peut prendre des décisions, y compris dans la gouvernance de la sécu, hein, du chômage, des pensions, etc., que par un accord entre les deux parties. Ça veut dire, en bon français, que chaque partie, y compris le camp structurellement faible des travailleurs, a un droit de veto sur l'évolution du système. Ce que, par exemple, la Commission européenne et un certain nombre de nouveaux modes de politique ont inventé depuis une trentaine d'années, c'est le système des tables rondes. Quelqu'un se met au milieu, par exemple un commissaire européen, il pose une question à 88 000 partenaires qui peuvent répondre sur Internet dans les 3 semaines. Après, il fait faire une synthèse. Maintenant, il l'a fait faire par l'intelligence artificielle, mais dans le temps, il fallait payer des fonctionnaires pour faire une synthèse. Et quand il y a la synthèse, il fait ce qu'il avait envie, il avait de toute façon décidé à l'avance, puisque sur les 88 000 répondants à la table ronde, personne ne pourra dire « Ah, mais je ne suis pas d'accord ». On va lui dire « Mais évidemment, vous n'êtes pas d'accord. Vous êtes un sur les 88 000. » Mais en moyenne, bon, voilà. La gouvernance par la table rectangulaire, elle permet de dire les intérêts structurellement les plus faibles, c'est-à-dire ceux qui ne possèdent pas les moyens de production, en bon français, peuvent être défendus dans une logique de conflit. Parce que je trouve ça quand même très important, si on fait un pas en arrière, de dire que toutes les catastrophes, les dangers dont vous parlez dans vos rapports, les inondations, les canicules, les maladies, les accidents, les guerres, sont rentables. Et alors, je ne suis pas dans la théorie du complot. Je ne dis pas que les capitalistes se réunissent dans une cave pour organiser les guerres et les canicules. Je dis qu'ils en tirent profit et que les 2 ou 3 milliards que la région Wallonne a dû débourser après l'inondation de la Vesdre, on ne les a pas achetés dans la Vesdre, on les a donnés à des gens qui en ont fait quelque chose et qui, sinon, auraient eu ces 2 ou ces 3 milliards en moins. Je suis un peu caricatural, mais pas tellement. Donc, il ne faut pas imaginer qu'il y a une espèce de consensus spontané de toutes les forces de la société, y compris les capitalistes et les grands détenteurs des moyens de production, pour dire qu'il faudrait moins de catastrophes. Non. Non, les catastrophes sont rentables. Et donc, si on n'a pas un mode de gouvernance qui permet aux faibles, à ceux qui ne possèdent pas les moyens de production, d'imposer leur point de vue, ben alors on va être emporté dans des discussions extrêmement vagues. Et donc moi, je défendrai que, au moins pour une sécu qui peut être élargie, qui peut être renforcée, on conserve un mode de gouvernance, de décision paritaire. Alors, on va m'objecter, oui, mais les travailleurs sans papier, les travailleurs sans emploi, les livreurs des Deliveroo, les faux indépendants, etc., alors on les laisse sur le côté. Et c'est un vrai problème. Et donc il faut réfléchir à deux réponses à cette question-là. Est-ce qu'on va faire de la table rectangulaire une table hexagonale ou qui finira par être ronde à la fin, avec plein d'intervenants? Ou bien est-ce que le syndicalisme doit se transformer en disant tous les intérêts non représentables aujourd'hui, par exemple les freelancers, doit trouver la place dans le syndicat et être amené à la table rectangulaire sur un des deux côtés du banc. Vous avez compris quelle est ma préférence. Mais donc pour moi, c'est vraiment un enjeu important. Et si Écolo peut être aussi attentif à l'idée de dire on a besoin de modes de gouvernance qui permettent de tenir dans du conflit fondamental, ça me paraît important.
Merci Felipe. Je vais te reprendre le micro. Je vois que tu as des supportrices dans la salle, là. Voilà. Je vais venir à vos questions après, hein. Pas d'inquiétude. J'ai dû moi-même en enlever plein. Mais je voudrais quand même vraiment aborder un point peut-être encore juste deux points qui me semblent vraiment, vraiment essentiels dans la suite de ce débat. Je ne vais pas revenir sur les enjeux de gouvernance, parce qu'on pourrait aussi t'objecter, Philippe, que cette table rectangulaire, elle ne marche plus tellement bien, quoi. Et donc, oui, en effet, intéressant de garder cette idée de rapport de force et que les choses soient bien claires. Mais on pourrait quand même aussi se dire qu'aujourd'hui, il y aurait matière à réfléchir à une autre forme de gouvernance, y compris dans la sécurité sociale, parce qu'aujourd'hui, en termes d'accord, on ne peut pas dire qu'on soit chaque fois dans des décisions qui marchent, en fait. Voilà. Je voulais vraiment aborder cette question des choix stratégiques, parce que ce qui est bien mis en évidence aussi dans votre étude, c'est le fait qu'on va devoir faire des choix. La transition nous oblige à choisir. On peut tout de suite imaginer que lorsqu'on discute de secteurs qui devraient disparaître, par exemple, cela ajoute une tension sur un marché du travail qui est déjà extrêmement compliqué pour les travailleurs et pour les travailleuses. Mais je voudrais d'abord, avant d'aller vers toi pour cette question, Philippe, vraiment plutôt m'adresser à vous deux sur cette question des choix stratégiques, des secteurs qui doivent pouvoir être soutenus, des secteurs qui devraient potentiellement disparaître. Comment est-ce qu'on adresse cette question avec cet enjeu de démocratie dont tu parlais tout à l'heure, Pascal, avec ce qu'on a pu constater et voir, notamment dans la question des Gilets jaunes, mais pas que.
Je vais juste, avant de passer la parole à Aurore, parce que je suis sûre que tu as des choses importantes à dire là-dessus, mais la première chose à laquelle il faut tout de même réfléchir, c'est si on s'engage dans une transition écologique, c'est plus un projet aujourd'hui politique, je n'entends plus ça. Mais si on considère que c'est ce qu'il faut faire, et nous le considérons parce que ce risque est actuel, réel, et n'est pas hypothétique, nous le voyons en ce moment sous nos yeux, alors il faut engager, il faut investir. Voilà, il faut investir, et si on est prêt à débourser, débloquer des milliards pour la défense, qu'on va d'ailleurs aller prendre en bonne partie dans les dépenses sociales, et qui vont alimenter la crise écologique, ben voilà, c'est des choix de société. Évidemment, pour nous, ce n'est pas ces choix-là qu'il convient de faire. Ça, c'est la première chose que je voudrais préciser, que ce soit, c'est des choix politiques avant tout, ce n'est pas des choix économiques, d'accord ? Mais je vais parler pour les aspects sectoriels, je vais passer la parole à Aurore.
Peut-être que le point de départ, c'est une fois qu'on acte ces nécessaires transformations, c'est de co-construire ensemble une vision du futur. Et là, je trouve qu'il y a un concept qui est intéressant et dont on parle de plus en plus, c'est le concept d'économie du bien-être, qui est en fait une économie qui assure les besoins fondamentaux de toutes et tous dans les limites planétaires. Et donc, il s'agirait en fait de développer un grand dialogue démocratique pour essayer de comprendre mais à quoi ressemble cette économie du bien-être. Donc, qu'est-ce que ça veut dire vivre bien dans les limites planétaires? Et donc ça, l'idée, ce serait d'avoir ce dialogue démocratique qui intègre toutes les différentes perspectives, en prenant en compte également l'aspect, également les impacts au-delà de notre territoire. Et une fois qu'on a cette vision, la traduire en instruments. Et là, il y a déjà des instruments qui existent aujourd'hui, et je pense notamment à un instrument important qui a été mis en place en Nouvelle-Zélande, qui sont les budgets de bien-être. Donc c'est en fait un outil d'allocation budgétaire du gouvernement de Nouvelle-Zélande qui vise à prioriser les dépenses publiques qui contribuent au bien-être. Et donc ensemble, ils ont défini collectivement différentes dimensions du bien-être humain dans les limites planétaires. On avait par exemple la santé des enfants, assurer la transition vers la neutralité carbone, lutter contre l'isolement des personnes âgées, assurer un logement abordable à tous. Et donc c'est en repartant de ces besoins conçus dans les limites qu'on pourrait les traduire en priorité politique via des outils comme les budgets du bien-être. On a d'autres outils au niveau urbain que sont le fameux donut, parce que le donut, il a été traduit dans ce qu'on appelle le city portrait, le portrait de la ville, qui est une méthodologie qui a été développée par la think tank de Kate Raworth, qui donne des outils aux villes pour co-construire des visions de la ville qui fonctionne dans les limites planétaires et qui assure les besoins de tous. Donc on a aujourd'hui des outils d'intelligence collective pour imaginer ces visions du futur et ensuite les traduire en instruments contraignants, notamment via des budgets publics, comme les budgets du bien-être.
Merci. Philippe, pendant que le micro arrive vers toi, est-ce que ça, c'est une réflexion que vous avez à la CNE, à la CSC de manière plus générale? Est-ce que vous vous positionnez plutôt dans une logique quelque part d'attente qu'il y ait une décision politique externe, notamment sur ces questions de secteurs prioritaires, non prioritaires, ou est-ce qu'il y a dès maintenant, du côté de la CNE, une réflexion sur ça?
Alors, je distingue l'aspect sectoriel et après, quelques mots intersectoriels. Sur les secteurs, il y a des secteurs où ça se fait et d'autres où ça ne se fait pas. Par exemple, dans le secteur des garages, il y a tout un travail qui est fait avec les travailleurs et travailleuses des garages pour dire si demain c'est une société de moins de voitures, espérons-le, et des voitures essentiellement à motorisation électrique, ça change complètement le volume et le type d'emploi. Et donc ça, on le fait avec les travailleurs du secteur et c'est important, on devrait le faire beaucoup plus, mais la vérité c'est qu'il y a beaucoup de secteurs où ça ne se fait pas encore. Mais donc c'est possible d'associer les travailleurs. Je pourrais donner le contre-exemple. À l'AFN, nos délégués nous expliquent qu'il faut absolument conserver la fabrication des armes et c'est difficile de faire avec eux le travail de l'avenir du secteur. Bon. Au niveau intersectoriel, le dernier congrès de la CSC s'appelait « Mieux vivre en Wallonie »,« Buen vivir » traduit en français, et avait défini 10 objectifs pour les 10 prochaines années. Bon, c'était il y a 3 ans, donc le temps passe. Et c'était par exemple... la gratuité complète de repas scolaires locaux et de qualité, etc. C'est la meilleure façon, je pense, de dépenser un euro aujourd'hui dans le pays, c'est d'assurer cette gratuité totale en termes d'écologie, de santé, d'égalité, de justice sociale, de tout. Et donc, voilà, on avait dit des objectifs comme ça. La difficulté, c'est que le syndicat est heureusement une organisation multicouche, avec de l'interprofessionnel, et puis des secteurs, puis des entreprises, etc., et que c'est plus facile de développer ces réflexions-là au niveau intersectoriel quand on a une vision large. Et après, quand il faut les traduire, ben, ce n'est pas nécessairement évident, même si, par exemple, là, on a l'enseignement qui porte assez bien ce combat de dire, dans les écoles, il faut les repas gratuits. Ben, après, vous voyez, on est en train de reculer là-dessus, mais ça, c'est la politique de maintenant. Oui, mais donc, pour moi, vraiment, cette question de bien-être, elle est essentielle. J'aime quand même bien rappeler... que le problème en Belgique, ce n'est pas qu'il manque d'argent, c'est qu'il y a trop d'argent. Hein. On a dépassé les 50 000 euros de produit intérieur brut par an et par habitant. C'est beaucoup trop. Toutes les enquêtes internationales montrent qu'au-delà de 15 000, 20 000 euros par an et par habitant, quand je dis par habitant, c'est du bébé jusqu'aux ancêtres, hein, l'augmentation des richesses produites ne contribue plus du tout au bien-être. Plus du tout. Et donc, entre 0 et 10 000, 15 000, 20 000 on augmente énormément la qualité de vie des gens, si vous passez la situation du Soudan à celle de l'Espagne, je ne sais pas. Mais après, on a beaucoup trop d'argent. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait, et si possible, avec moins.
Merci. Merci à tous les trois. Est-ce qu'il y a parmi vous des questions? Est-ce qu'il y a des... Ouh, oui, plusieurs. Ce sera plus facile si tu parles directement dans le micro, je pense. Attends.
Bonjour. Merci beaucoup. C'est hyper intéressant ce que vous avez produit comme rapport. Pour moi, c'est un peu massif, dans le sens de la proposition est massive dans ce qu'elle implique, tant à mettre en œuvre et en termes de financement. Vous, qu'est-ce que vous verriez comme première étape vers ce but final d'une protection sociale et écologique? Merci.
Mais moi, je vais quand même alors poser la question du financement et notamment... on a pu rappeler à quel point le travail, les travailleurs financent la sécurité sociale, donc elle est à nous, les travailleuses et les travailleurs, mais ça implique qu'elle est intimement articulée à un modèle productiviste. Et donc, quand on... Enfin, je vais faire l'avocat du diable, hein, Felipe. Quand on revendique plus de salaire, et donc on veut augmenter la taille du gâteau, pour mieux le répartir, on est aujourd'hui avec un gâteau qui empoisonne la planète. Et donc, la question du lien aujourd'hui du financement de la sécurité sociale à un modèle essentiellement insoutenable, j'aimerais voir comment... Parce que moi, je n'ai pas encore eu le temps de lire votre étude. Est-ce que vous le traitez dans l'étude? Et puis, Felipe, comment est-ce que syndicalement, en fait, on aborde cet enjeu-là?
Merci Laurence. Et alors, dernière question, Jean-Marc. Oui, c'est Jean-Marc.
C'est bien, Jean-Marc, merci. Mais d'abord, je voulais vous remercier pour la qualité de tout ce que vous avez raconté. C'était vraiment très, très enthousiasmant et grand merci. Je me réjouis de lire cette étude. Et je voulais aussi poser la question du financement. Moi, c'était plus d'un point de vue automatisation, robotisation, rôle de l'intelligence artificielle qui fait que la quantité de travail globalement est quelque chose qui, normalement, devrait décroître et que donc associer vraiment le financement de la Sécu aux revenus sur le travail me paraît une voie dans une certaine mesure dangereuse, alors que, comme Philippe l'a dit, les sources de revenus sont gigantesques, mais c'est les revenus du capital, et donc est-ce qu'il n'est pas important d'avoir un shift et qu'on aille chercher vraiment dans les revenus du capital de quoi financer la sécurité. Et alors, par ailleurs, comme il y a une petite provocation sur l'allocation universelle, moi je suis un fervent défenseur de ce système, mais dans une petite mesure, hein, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous avez dit sur la gratuité des services de base, mais je crois qu'il reste quand même une petite partie, ce qu'on appelle la sphère autonome, le fait qu'on peut choisir d'acheter un drone ou d'acheter des vêtements ou d'aller en vacances ou d'acheter de la nourriture bio chère, des choses comme ça. Ben, ça, c'est un choix individuel et je crois qu'il est important qu'il y ait une petite partie des revenus qui permettent aussi de faire des choix individuels, quoi.
Merci. Sarah, très très brièvement, parce que je ne peux rien lui refuser.
Merci Marie. Merci beaucoup pour les interventions. Je pense que c'est super important d'avoir cette étude pour justement amorcer une réflexion en ce début de législature, qui est une législature extrêmement violente sur les questions sociales, et de pouvoir avoir cette première grosse pierre à l'édifice de reconstruire un imaginaire en termes de perspective de ce que nous voulons pour la sécurité sociale. Et comme tu le disais, ne pas mettre la Sécu sous cocon en essayant de la protéger alors qu'en fait elle est déjà en train de se faire détricoter, mais d'avoir des perspectives ambitieuses pour la Sécu. Alors ce que je me demande, c'est comment est-ce qu'on organise cette stratégie pour que cet imaginaire, ce rêve, il se répande et qu'il soit largement partagé. Aujourd'hui, la droite a quand même réussi un tour de force magistral d'avoir réussi à rêver tellement fort de détricoter et de tuer la Sécu qu'aujourd'hui, ils sont en train d'y arriver. Alors qu'avant, on ne pensait jamais que cette idée, elle pourrait faire autant son chemin. Et il y a d'autres choses qu'on n'aurait jamais imaginé pouvoir se populariser qui sont en train de le devenir. Par exemple, la gratuité. On a l'impression que c'est une idée qui parle à tout le monde. Bien sûr qu'on a envie que les services de base, comme tu le disais, soient gratuits, accessibles à tous, quels que soient les revenus. Or, aujourd'hui, ils ont réussi à immiscer dans les cerveaux d'une grande majorité de la population qu'en fait la gratuité ça serait quand même pas si bien, que ça dévalorise le service qui est offert. Hein, un médecin qui travaille gratuitement, qu'est-ce que c'est? Les gens ne respectent plus ce médecin. Et par ailleurs, qui est-ce qui paye finalement? Parce que quand c'est gratuit, c'est quand même quelqu'un qui paye, hein, c'est vos parents. Voilà. Et donc aujourd'hui, il y a aussi cette volonté de la droite de retirer un maximum d'avantages aux personnes qui en ont besoin pour en fait les acculer et les obliger à accepter n'importe quel boulot au service de l'industrie et du grand patronat qui réclame cette main-d'œuvre bon marché et des travailleurs jetables, des travailleurs Kleenex. Et donc aujourd'hui, ma question, c'est comment est-ce qu'on fait pour construire un imaginaire avec des propositions très concrètes qui parlent à une large majorité de la population et qui permet en fait de rassembler autour de ces idées de solidarité et qui allie évidemment l'écologie qui est le nouveau grand enjeu. Merci Marie.
Merci Sarah. Merci à toutes et à tous pour vos questions. Et c'est vraiment parfait parce que c'est toutes les questions qui restaient sur mon papier, donc c'est génial. Je vais commencer par toi, Philippe, et je te propose de faire une réponse qui reprend toutes les questions, parce que sinon, on va être trop juste dans le timing. Ça va aller ?
Oui, je vais essayer. Donc, sur l'allocation universelle, mon idée n'était pas de socialiser 100% du revenu des gens à travers des offres de services. Il est clair que tout le monde a besoin d'avoir du liquide ou du cash. Mais refaisons ce débat un jour en profondeur. Sur le financement par d'autres revenus que ceux du travail, je vais faire un peu cash, mais pour moi, il n'y a pas d'autres revenus que ceux du travail. Il y a des revenus captés par le capital sous forme de stock, et comme vous le savez par cœur, il y a les flux et les stocks. Les flux, c'est la vie, les stocks, c'est la mort, vous savez ça très bien. Les revenus en flux, c'est le revenu du travail. Les revenus du capital, si quelqu'un possède 100 milliards d'euros et gagne de l'argent avec ça, c'est juste du prélèvement sur le travail des autres. Et donc, dans un terme, si on prend les choses profondément, il n'y a pas d'autre revenu que celui du travail. Et j'insisterai sur une chose, on s'attache à la Sécu ou à la fiscalité juste parce qu'on a la redistribution, mais on oublie tout le temps que la redistribution est la fille de la distribution et qu'on ne redistribue que ce qui a été distribué au niveau du partage des salaires de l'entreprise. Et s'il n'y a pas cette distribution, on va redistribuer la disette. Or, on est un pays, le seul pays du monde, je crois, peut-être avec la Corée du Nord, où la négociation des salaires est interdite. Or, la réponse au financement de la Sécu, c'est d'abord d'augmenter les salaires. D'augmenter, évidemment, les salaires les plus bas et les salaires des gens qui travaillent vraiment. Et donc, si on augmente les salaires, on résout tout de suite le problème de financement de la Sécu. La question de Laurence est évidemment fondamentale. Est-ce que dire que la Sécu doit être financée par les salaires, ce n'est pas alimenter une spirale infernale de toujours augmenter les salaires et donc la consommation et donc la destruction des cadres de vie? Alors, disons qu'il faut en tout cas augmenter la part des salaires dans les richesses produites. Produisons moins de richesses, produisons des richesses plus essentielles, mais que dans ces richesses produites, l'essentiel aille au salaire. Parce que, vous savez ça mieux que moi, mais dans tous les produits toxiques que produit le capitalisme, le plus toxique de le produit toxique, c'est le profit, qui est le produit métatoxique, puisqu'il produit la plupart des autres toxines. Et donc, si on n'arrive pas à ce que la distribution, à la base, se fasse au profit des salaires et pas du profit, alors on aggrave toute la crise écologique de demain et d'après-demain, et on diminue la capacité de financer Sécu. Alors, je vais faire une concession à Laurence. Oui, tout salaire pollue. Chaque euro de ton salaire et du mien finira dans la pollution. Mais tous les salaires ne polluent pas de la même façon. Notamment, des salaires plus égaux polluent beaucoup moins que des salaires inégaux. Et des salaires dans un monde organisé en vue de biens communs essentiels polluent beaucoup moins que des salaires au Texas, disons, pour dire une bêtise. Et donc, je crois qu'on peut tenir au financement de la Sécu sur base des salaires. La Sécu, c'est notre salaire, c'est à nous. Mais ça doit se faire dans une libération de l'exécution salariale, des politiques d'égalité salariale radicale et une augmentation de la part des salaires, même si le stock des richesses produites chaque année doit diminuer globalement.
Merci Felipe et merci d'avoir répondu aussi rapidement. Et donc, je me permets de vous inciter aussi à répondre particulièrement à la question de Sarah, qui était aussi ma dernière question prévue sur comment est-ce qu'on arrive à réenchanter autour de ça, comment est-ce qu'on s'organise pour que ça advienne. Tu l'as dit avec un certain euphémisme, la politique actuelle n'est pas tout à fait en phase avec ces éléments-là. C'est quoi votre stratégie? C'est quoi votre plan de bataille?
Ok, d'abord, je voudrais remercier Felipe pour son analyse parce qu'elle présente l'intérêt de justifier le maintien des interlocuteurs sociaux au cœur de la Sécu, quel que soit son mode de financement. Du coup, ça me permet d'enchaîner sur le fait que, quand même, c'est très particulier en Belgique, le fait que c'est aussi fort basé sur les contributions. C'est aussi le cas dans certains autres, les cotisations. C'est le cas en Allemagne. Mais dans les pays scandinaves, par exemple, on a une très, très bonne sécurité sociale. La part de la fiscalité est beaucoup plus importante et va, par exemple, alimenter des besoins essentiels qui touchent chacun d'entre nous, comme les soins de santé, qui sont organisés sous forme de services publics. C'est pour dire qu'il ne faut pas rester strictement arc-bouté sur le système belge. Le mérite des systèmes où les syndicats ont été très présents dans la gestion, c'est qu'ils ont été beaucoup plus robustes face aux attaques néolibérales. Donc voilà, c'est pour apporter une question et une réponse nuancée. Quand on parle de cette protection sociale écologique, nous, on n'a pas étudié ça. On en parle, Aurore peut en parler, parce qu'on en a beaucoup parlé dans le rapport du comité sur la transition juste, mais ça met en jeu des enjeux de justice sociale avec des principes qui sont pollueur-payeur versus personnes vulnérables, revenus versus absence de revenus. Enfin, les solidarités doivent combiner un ensemble d'enjeux qui doivent faire l'objet, et ça reste la base, d'une délibération collective. Et c'est évidemment pas des chercheurs qui vont dire c'est ça qu'il faut faire ou c'est ça qu'il faut faire. Ils peuvent indiquer les termes du débat et pas beaucoup plus que ça. Alors, comment réenchanter? Je vais laisser Aurore en dire un mot. J'ai pas de potion magique. On pense quand même que notre rapport réenchante un petit peu. On espère en tout cas qu'il y contribue. Mais je pense que l'enjeu particulier du risque social écologique par rapport au risque social tout court, c'est sa dispersion. Il peut frapper chacun d'entre nous. Et c'est ce message qu'il faut absolument faire passer.
Oui, mais peut-être pour rebondir là-dessus, par rapport à la chose à faire immédiatement, donc la première chose à mettre en place, ce serait partir de cette idée, en effet, que le risque social écologique et la vulnérabilité qui va avec, il est extrêmement diffus. Donc contrairement au risque social classique, où on a des groupes clairement définis, type les personnes âgées, les personnes malades, les femmes, les familles, ici, c'est beaucoup plus complexe. En fait, on a plusieurs facteurs qui se combinent et qui créent la vulnérabilité. Et donc la première étape, ce serait d'objectiver et d'identifier ces vulnérabilités au pluriel. Et là, on offre un outil qui est la matrice, qui permet justement justement d'avoir une analyse systématique de tous ces facteurs de vulnérabilité. Et donc nous, ce qu'on propose, c'est de l'institutionnaliser via la création de cet observatoire des transitions justes, comme il va se mettre en place au niveau européen, mais également en France, à Paris, je crois. Il y a cette idée de créer cet observatoire pour vraiment collecter des indicateurs sur ces questions de vulnérabilité. On ne dit pas qu'il faut une nouvelle institution, ça peut se faire au sein des institutions existantes, mais en tout cas, c'est quelque chose qui doit se mettre en place à tous les niveaux de gouvernance, parce que les risques, ils ont des niveaux différents. Certains, ça doit se faire à des niveaux très locaux, au niveau des rues, voire au niveau des bassins versants, et d'autres, c'est vraiment au niveau national. Donc ça, c'est la première chose à faire pour nous, c'est cette identification des vulnérabilités, pour justement montrer que le risque, il touche tout le monde. Alors par rapport au financement, c'est quelque chose qu'on n'a pas abordé dans l'étude, mais dans la littérature, il y a énormément de pistes qui sont proposées. On peut notamment penser à tout ce qui est cette réorientation des subsides aux énergies fossiles. Donc ici, on a quand même le Service fédéral climat qui les quantifie, qui les identifie, on sait où ils sont, on peut les réorienter vers cette protection sociale écologique. Il y a également tous les instruments de fiscalité écologique qui visent à taxer toutes les industries, les pratiques polluantes qui aujourd'hui en fait ne sont pas internalisées. Donc ça, c'est un aspect. Et on peut également imaginer des taxations sur les grands revenus, les fortunes, parce qu'on le sait aujourd'hui, les plus riches contribuent de façon disproportionnée aux problèmes climatiques. On a quand même les 1% des plus riches qui contribuent à 10% des gaz à effet de serre et les 10% les plus riches à 50%. Et donc là, ce serait une façon de rétablir cette forme de justice climatique en mettant à contribution ceux qui sont les plus responsables pour protéger les plus vulnérables. Et donc par rapport à la question du réenchantement, on s'est posé la question avec mon collègue Éloi Laurent sur comment est-ce qu'on peut justement favoriser ces changements. Et nous, on en est venu à l'idée que une façon de faire, c'est de montrer que ça existe déjà ailleurs, qu'ailleurs, il y a déjà des politiques qui sont mises en place. Et c'est ce qu'on essaie de faire dans le cadre de ce projet européen, avec cette création de la boîte à outils des politiques d'économie du bien-être, où on a identifié 100 politiques inspirantes. On les présente et on montre finalement quels sont leurs impacts concrets sur le bien-être des humains, et pour montrer que c'est possible, que c'est faisable, et qu'en fait, avec cette idée que le futur, en fait, il existe déjà, mais il est juste inégalement réparti. Et donc, on a déjà les clés.
Merci beaucoup. Merci vraiment beaucoup à tous les trois d'avoir été avec nous ce matin. Et n'hésitez pas à partager ce message autour de vous. Une manière de réenchanter et de gagner le combat, c'est aussi de pouvoir en parler avec son voisin, avec sa voisine.
Ici se termine cette conférence « Construire une protection sociale écologique en Belgique ». Vous avez reconnu Pascal Vielle, professeur à l'UC Louvain, Aurore Françolet, chercheuse à l'ULB et à Sciences Po Paris, Felipe Van Kersblik, secrétaire général de la CNE, c'est Marie Lecoq, coprésidente d'Écolo, qui animait cette conférence. Une conférence enregistrée le dimanche 31 août 2025 lors du Festival de l'écologie populaire à Massambre et propulsée par Etopia, le centre d'animation et de recherche en écologie politique.